C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on lutte contre le racisme et pour l'égalité.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère et aussi le reste du monde avec l'association de solidarité et de citoyenneté internationale et locale, le CICODES, qui travaille dans le Finistère à améliorer tout ce qui ne va pas dans le monde. Et le programme est vaste. C'est vrai qu'on mesure combien les associations comme le CICODES sont précieuses, surtout en ces temps guerriers. Aujourd'hui, il sera question de lutte contre les discriminations et d'éducation pour l'égalité pour tous et toutes. Les salariés et bénévoles du CICODES œuvrent régulièrement et au long cours dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées notamment, des projets qui permettent de faire comprendre en profondeur pourquoi nos choix, nos comportements ont des impacts bien plus larges que ce qu'on pense parfois, et nos idées aussi. Et là, on s'attaque justement à un sujet qui revient sur le devant de la scène, l'idée qu'on ne serait pas tous les mêmes humains parce qu'on a une peau, des yeux de telle couleur, des cheveux de telle nature, etc. Le CICODES a travaillé sur ce sujet, le racisme, les discriminations. Arka Argouliès, c'est l'une des salariées, est avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Véronique.
On va commencer par présenter le projet que l'association vient de mener, ça s'est juste terminé en février là, avec des écolières et écoliers de l'école Edmond Michelet à Quimper, c'est ça?
Oui, exactement. Donc on vient de terminer le projet éducatif local qui s'intitulait « Allô, j'écoute, ici les droits ». Donc, qui a été menée avec la classe de la professeure Regal Bento. Donc, une classe de CE1, CM1. Donc, je ne vais pas me tromper.
Oui, c'est étonnant. Hein. C'est CE1, CM1, pas de CE2 au milieu. Voilà.
Et donc un projet qui a eu lieu donc, dans le cadre de projets éducatifs locaux et qui a eu reçu la subvention, un financement qui a été par la ville de Quimper, mais aussi par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ici, on était sur plusieurs séances qu'on a menées avec la classe et les élèves autour d'une sensibilisation donc, à l'égalité pour tous et toutes et aux formes de discrimination. C'est un travail qui a eu sur en plusieurs étapes. Il faut comprendre quand même.
Oui, il y a combien d'heures? Il y a une trentaine d'heures dans ces cas-là, à peu
on
près.
On était sur, on a eu quatre séances, mais autour d'une heure et demie avec la classe, mais sur sur une temporalité de plusieurs mois, auquel la professeure aussi faisait des suivis et des apports entre les séances, et auquel dans cette démarche pédagogique, on était vraiment sur comprendre qu'est-ce que veut dire une discrimination, l'importance de l'éducation aux droits humains aussi dans le cadre des enfants, aux droits des enfants, et aussi de comprendre, de valoriser les différences comme une richesse. On est ici, par contre, peut-être le contexte, je peux contextualiser le projet, parce qu'avec cette classe, on est sur une deuxième année de projet ensemble, auquel l'année précédente, la classe avait participé aussi à un projet qui s'intitulait Elle change le monde, auquel la classe avait pour objectif de sensibiliser les enfants à l'égalité homme-femme et de découvrir aussi le portrait d'une militante qui a œuvré pour les droits humains ou encore pour l'écologie.
Et on avait fait une émission, d'ailleurs, les gens peuvent aller écouter l'émission sur le site internet de Transistor.
Voilà, donc on voit, on a une continuité aussi dans nos actions.
Donc c'était la même classe, ça veut dire les mêmes enfants de l'école Edmond Michelet ou d'autres enfants?
Alors on a eu les élèves qui sont en CM1 actuellement, mais était en CE2 à l'époque. Oui. Et donc ces élèves-là, une partie de cette classe-là a travaillé sur le portrait d'Harriet Tubman, donc une anti-esclavagiste, donc qui a travaillé, a œuvré à libérer les esclaves. On est dans les années 1860 aux États-Unis d'Amérique.
Elle a elle-même été esclave.
Oui, voilà, ouais. Qui a fui son lieu et qui a ensuite contribué donc à la fuite de plusieurs centaines d'esclaves vers le nord des États-Unis. On parle du chemin de fer clandestin, le Underground Railroad, qui était vraiment un parcours auquel on avait tout un réseau de personnes qui aidaient, qui étaient anti-esclavagistes et qui allaient vers le sud du Canada et le nord des États-Unis.
Donc c'était avant la guerre de sécession?
On était en pleine, dans ces périodes-là, si je ne me trompe pas, donc on est dans les années 1865. L'abolition de l'esclavage, si je ne me trompe pas, c'est dans les années qui suivent. Après, on a une période ségrégationniste, donc aux États-Unis.
Donc là, mais ça, ça a duré longtemps. Ben, 100 ans, voilà. En fait, encore. Ça a encore duré 100 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'esclavage, mais enfin bon, les Noirs étaient quand même des citoyens de seconde zone.
Voilà. Et donc, l'abolition de l'esclavage des États-Unis d'Amérique a eu lieu en 1965. On est sur la période de ségrégation raciale qui a eu lieu en 1877 à 1964. Voilà. N'oublions pas que ce n'est, si on regarde sur l'histoire, ce n'est que hier.
Voilà. Mais c'est ça, oui. 1964, bon, voilà, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais.
Et donc, pour revenir sur Harriet Tubman, tout ce projet qu'on a fait et actions qui ont mené avec la classe, un des bilans auxquels on a remarqué, c'était déjà d'aborder l'histoire avec les enfants, de prendre conscience de l'histoire contemporaine, d'actions importantes aussi autour de la désobéissance civile ou l'accès aux droits pour tous et toutes, de lutte contre les formes de discrimination et aussi avoir une visibilisation, une représentation de personnes inspirantes et auxquelles Harriet Tubman, son parcours a beaucoup inspiré les élèves.
Oui, puis en plus, ça avait l'air d'être une aventurière. C'était pas seulement une question de lutte pour l'égalité, quoi.
Et donc, avec tous ces éléments-là, nous avons reçu un retour très, très positif de la professeure qui nous a dit, eh bien, banco pour partir l'année prochaine sur le parcours de Rosa Parks.
Qui est plus connue, là, pour le coup, mais enfin, on peut rappeler quand même qui c'est.
Oui, tout à fait. Et donc, dans ce projet, donc, allô, j'écoute ici les droits. On a, comme j'ai mentionné précédemment, on était sur un travail sur de lutte contre les discriminations racistes et encore de promotion de l'éducation aux droits pour tous et toutes, et avec le portrait d'une militante ou une personne qui a contribué au mouvement des droits civiques, donc de Rosa Parks. Donc Rosa Parks, qui est née en 1913, qui a grandi en Alabama, issue d'une famille d'anciennes esclaves, et auquel on la connaît, puisqu'en 1955, elle a refusé de céder sa place dans l'autobus à Montgomery. Et on est sur une période auquel il faut comprendre que dans ces années-là, on a de plus en plus d'actes de désobéissance civile. Rosa Parks n'est pas la seule qui a refusé de céder sa place. Elle n'est pas la seule, mais on retient d'elle de son histoire, puisque peut-être il y a une circonstance, donc une conjoncture de circonstances, que suite à son arrestation, il y a un engouement et vraiment un début de mouvement de boycott justement des autobus, du système de transport public, de sensibilisation et d'organisation de la société civile.
Il y avait déjà, oui, des activistes. Elle-même, Rosa Parks, était activiste. Hein. C'est pas juste une dame comme ça qui a surgi de nulle part. Hein.
Non, on comprend son parcours et avec lequel on sensibilise aussi les enfants. On a informé sur l'importance aussi de la structure, du collectif, de la société civile, d'agir aussi de dénoncer des injustices. Et donc, effectivement, Rosa Parks faisait partie donc, d'une association qui faisait de la promotion, ou en tout cas qui travaillait vers les droits des personnes racisées. Cette association s'intitulait le National Association for Advancement of Colored People. Elle a aussi ensuite été dans la participation de la Fondation Montgomery pour une association pour l'avancement des droits, donc qui était une association avec des actions autour de la désobéissance civile, autour aussi de pratiques non violentes. Et son combat aussi a amené à un succès, puisque en 1956, donc un an après son arrestation, la Cour suprême lui donne raison, il y a, à l'issue de cette décision, il y a la fin de la ségrégation dans les autobus, puisque cette ségrégation, elle est vue comme anticonstitutionnelle. Et donc on a...
Oui, déjà un grand pas franchi. Hein. Ouais.
Voilà. Et quand on parle des enfants du parcours de Rosa Parks, il y a un grand étonnement de... elle s'est fait arrêter et mettre en prison juste parce qu'elle a refusé de céder sa place dans l'autobus. Et ça, c'est des points marquants auxquels je pense que les élèves font des parallèles avec leur vie de tous les jours.
C'est ça, oui, tout à fait.
Sur cet acte et auquel eux-mêmes caractérisent le parcours de Rosa Parks comme une personne courageuse, déterminée, et auquel elle cherchait à l'égalité pour tous et toutes.
Oui, dans le quotidien le plus banal, finalement, prendre le bus, c'est très banal. Hein. On est d'accord.
Et donc, si je reviens au projet et comment on amène dans le projet notre démarche qu'on a pu avoir avec les élèves sur comment on peut aborder les discriminations ou encore qu'est-ce que le racisme, puisque ça peut être une thématique qui nous semble délicate ou encore difficile à aborder, et bien c'est important pour nous d'outiller les élèves des bons mots, partager. Mm. C'est déjà de comprendre c'est quoi l'exclusion, de la discrimination ou encore une discrimination qui est raciste. On passe par des étapes de mise en situation, donc simuler dans un positionnement d'espace de manière plus schématisée, c'est quoi l'exclusion, de comprendre mm-hmm. c'est quoi l'exclusion, mais qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est exclu? Eh bien, on peut se sentir triste, de la colère, de l'agacement, l'incompréhension, mm-hmm. et ensuite faire des parallèles avec la réalité. Donc, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous amène parfois à ne pas inclure ou à exclure une personne? Et on comprend, c'est les élèves même qui identifient ces éléments d'exclusion. Ça peut être parce qu'on ne connaît pas, c'est parce qu'on a peur, parce que c'est différent. Et donc, de travailler autour de ces émotions-là et de dire, eh bien, c'est parfois, lorsqu'on part de ces émotions-là, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas, on va avoir des préjugés. C'est et ça. Donc, c'est de l'ordre des outils. C'est-à-dire, bon, un préjugé, qu'est-ce que c'est? C'est de poser un jugement avant de même connaître l'autre. C'est de décider d'avoir une action où on n'inclut pas forcément une personne. Et les préjugés sont basés sur, s'appuient sur ce qu'on appelle des stéréotypes. Donc, ces idées toutes faites qu'on va avoir sur une catégorie de personnes.
Des clichés, on dit aussi.
Oui, tout à fait, on utilise ces termes-là. Et donc, auxquels on va avoir ces représentations qui sont souvent figées ou caricaturales et qui vont déformer ou appauvrir notre réalité sociale.
C'est ça. Et c'est par exemple, les Noirs ont le rythme dans la peau, ça c'était le cliché.
Les femmes sont sensibles ou encore les Noirs sont très bons dans les sports, etc. Les stéréotypes, de manière générale, nous en avons tous, tous et toutes.
Bien sûr, on est même constitués comme ça pour des raisons physiologiques, ça nous a aidé à survivre dans les temps anciens, on va dire.
Voilà, et pour comprendre le monde dans lequel on vit, on crée ces catégories-là et on va créer des catégories parfois qui sont très figées, englobantes. Et qui ne permettent pas d'aller à la rencontre des uns et des autres. Les stéréotypes vont être aussi parfois portés par un groupe, un groupe social auquel on va avoir, et vont perturber dans le temps, et vont évoluer aussi par le temps. Mais les stéréotypes vont avoir des impacts sur notre manière d'agir et sur notre manière de penser. Sur manière de penser, on va utiliser le terme de préjugé, et sur nos manières d'agir, et ça, c'est là que les stéréotypes vont alimenter ce qu'on va parler d'exclusion ou les formes de discrimination. Faire comprendre aux enfants le risque qu'on peut avoir avec des stéréotypes ou des préjugés, c'est aussi peut-être on peut passer à côté de belles rencontres, on peut passer à côté d'opportunités. Mmh. Et que peut-être soi-même, est-ce que l'on a envie d'être catégorisé ou mis dans une boîte, on trouve ça un peu enfermant.
Mais oui, bien sûr.
Ça dommage un peu. Mmh. Et voilà, c'est là qu'on commence à parler d'exclusion ou de forme de discrimination, que ce soit pas que le racisme, mais on va parler de sexisme lorsque c'est l'exclusion ou une discrimination qui est basée à partir du sexe. Et on va utiliser déjà les termes discrimination, cliché, et peut-être préjugé, on a abordé ces termes-là. Mais le racisme est un mot qu'on va poser avec les enfants et en parler. Parler aussi d'un contexte historique en faisant parallèle avec, par exemple, le parcours de Rosa Parks. Mmh. Et d'expliquer des inégalités, il y en a encore de nos jours. Et de voir comment on peut agir face à ça. Quelles attitudes ou quelles valeurs on soutient, on porte ensemble en groupe. Et les élèves l'identifient très bien. Se dire, si l'on veut éviter les exclusions, la discrimination... quelles sont nos valeurs qu'on doit ou attitudes qu'on peut avoir? Eh bien, il y a la bienveillance, le respect, la gentillesse, la responsabilité, le fair play, le partage. Ce sont des différentes valeurs que les enfants ont même trouvées eux-mêmes. Et ça, c'était un peu dans notre dernière étape du projet, auquel on a travaillé aussi sur valoriser les différences comme une richesse. Et de regarder au sein de la classe, parce qu'on se retrouve dans un contexte aussi de l'école où est-ce qu'on a une grande diversité culturelle parmi les enfants.
Et à l'école de Mont-Michelet, à Quimper, il y a une diversité.
Oui, on a identifié à travers. Donc, ça s'est concrétisé par une création artistique où est-ce qu'on a fait un arbre de la diversité culturelle auquel, aux racines, on a énuméré, identifié les différentes origines de la classe, des élèves, et on en compte 9 dans cette classe. On a des enfants dont les parents sont issus de la France, du Maroc, de la Tunisie, des Comores, l'Albanie, le Ghana, l'Algérie, Mayotte et encore le Nigeria. Et c'était fabuleux parce que c'est un moment auquel on a regardé sur une carte du monde où se situent les pays, auquel ensuite on a pu identifier dans notre création artistique cet arbre-là, auquel donc les racines sont les origines des enfants, des parents, des familles. Ensuite, on va retrouver les feuilles auxquelles sont les attitudes qu'on souhaite valoriser au sein d'une classe, donc que j'ai énumérées, que les élèves ont identifié eux-mêmes, et les fruits sont les élèves, leurs noms, donc ils sont le fruit de cette diversité culturelle auquel cette richesse, elle est géniale et qui fait en sorte qu'on on est tous et toutes uniques.
Et, mais ça fait un bel arbre.
Tout à fait. si je peux poursuivre sur ce projet-là, c'est important. Donc, on est sur une démarche de sensibiliser, de faire prendre conscience voilà, sur qu'est-ce qu'une inégalité qui peut exister et quels sont aussi nos moyens en tant qu'enfants face à ces enjeux de société aussi, auxquels on peut agir. On est sur aussi de l'éducation aux droits des enfants. Mmh. Donc, on est sur travailler, par exemple, sur en tant qu'enfant, est-ce qu'on a des textes qui nous protègent ? Bon, on a la Convention internationale des droits de l'enfant. On a aussi, on va parler pour les adultes, donc il y a des encadrements, des textes de loi internationale et aussi donc en France. Et peut-être c'est bien aussi d'identifier, mais quand on parle de droit, qu'est-ce qu'un droit finalement ? Et ça, on a travaillé avec une activité auquel on devait distinguer un peu les besoins versus les désirs. Donc, quand je parle de besoins, les besoins fondamentaux d'un enfant. Et ça part d'un exercice qui est similaire à cette fameuse question qu'on peut se poser. Si tu te retrouves toute seule sur une île, qu'est-ce que tu ramènes avec toi ?
Eh bien, voilà.
Eh bien, même exercice avec les enfants à l'aide de l'eau, de jeux, de photos. Et donc, ils se retrouvent en groupe, ils vont se retrouver sur une île. Ils doivent choisir parmi des objets, des établissements. Donc, dans ces photos-là, qu'est-ce qu'ils gardent pour eux, avec la consigne pour être heureuse, en sécurité et en santé. Quels sont les objets ? Et puis là, c'est à ce moment qu'on fait le parallèle de besoins et de droits. Et donc, les besoins fondamentaux, les droits fondamentaux sont basés aussi sur les besoins fondamentaux des enfants.
Mmh. Ils ont bien compris, j'imagine. Enfin, peut-être qu'au début, ils voulaient emmener leur PS4 et puis finalement,
non. Oui, voilà.
Puis après, ils ont bien réfléchi, ils se sont dit que c'était peut-être pas la peine.
Oui, et donc un travail collaboratif où est-ce qu'on peut, on voit clairement que l'identification de qu'est-ce qu'un besoin versus un désir et qu'est-ce que le bien collectif aussi, que chaque enfant aurait besoin, eh bien, eux-mêmes peuvent facilement identifier. Et donc, on sait, c'est une démarche qu'on va avoir sur aussi l'éducation au droit et à l'égalité pour tous et toutes.
Et il y a aussi eu une création donc, sonore qui a été faite, un petit mot de contexte.
Oui, tout à fait. Donc à l'issue de chaque activité, donc on a aussi cherché à valoriser l'expression, la participation des enfants. L'idée, c'était aussi d'explorer l'outil de l'enregistrement audio, de s'enregistrer. Pourquoi on s'enregistre ? Pour garder un souvenir, pour garder des traces. Et donc, les élèves avaient... on prenait 5 à 10 minutes à la fin de chaque séance pour faire des petits enregistrements sonores de qu'est-ce qui nous a marqué de la séance, qu'est-ce qu'on retient. Et à cela, la professeure, entre les séances, elle a travaillé aussi avec les élèves sur une chanson, avec l'expression, donc via une chanson, via la musique, pouvoir exprimer ses idées. Et elle s'est inspirée donc, de la chanson « Mais ce jour-là, Rosa refusa », qui est chantée par des enfants, les enfants
fantastiques,
exactement, ouais. Auxquels donc, la classe a travaillé sur cette chanson et on les a enregistrés à l'issue, lors de la dernière séance. Donc, on se retrouve maintenant, après ce projet, avec une écoute sonore auquel qui a été publiée sur le site du CICODES, qui retrouve donc un peu des petites pépites ou de remarques de qu'est-ce qui les a marqués, les enfants ont été marqués par quels éléments durant chaque séance et de leurs chansons.
Alors, on va écouter ça.
Dans quelle classe on est ?
Classe de quelle ?
Quel niveau ?
C'est E1 SM1.
Qu'est-ce qui te marque de Rosa Parks ?
Rosa Parks, elle voulait juste se combattre parce que c'était injuste que les blancs avaient droit à tout, mais que les noirs avaient des règles strictes.
Moi, je la trouve très respectueuse. Et au moment où elle a dit non dans le bus, ça m'a très marquée parce que pour elle, c'était la première fois qu'elle se défendait.
Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ?
On a parlé de l'exclusion, des droits humains et des enfants.
Pourquoi c'est important ?
Pour vivre ensemble et lutter contre le racisme et pour se protéger aussi.
Justice. Pour la justice. Justice and freedom. La liberté.
Justice and freedom.
Ok, vous êtes prêts.
Une femme noire soumise dans l'autobus assise. La loi oblige qu'elle se déplace. Un homme blanc lui commande sous peine d'une amende. Chacun s'arrache, chacun sa place. Mais ce jour-là, Rosa refusa. 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 La femme noire est jugée, l'homme blanc a gagné. Quelle est injuste la justice. 1955, l'Amérique est éteinte. Raciste et ségrégationniste. Mais ce jour-là, Rosa refusa. 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 Il était arrivé le temps de l'égalité, la fraternité, la liberté. Martin Luther King allait se lever et rêver pour dire l'espoir en l'humanité. Car ce jour-là, Rosa refusa. Car ce jour-là, Rosa refusa. Car ce jour-là, Rosa refusa. Car ce jour-là, Rosa refusa.
Les élèves de l'école Edmond Michelet à Quimper, les élèves de CE1, CM1. Voilà, c'est la classe avec laquelle le CICODES a travaillé autour de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et nous sommes avec Arka Argouliès qui nous explique ce projet. Et Arka, donc on a déjà bien parlé du projet et il y a des livres qui ont aidé, n'est-ce pas, à la construction du projet. Alors, de quoi s'agit-il ?
Et donc, comme le CICODES est centre de ressources et de documentation, nous, on estime que l'utilisation de livres est un outil pédagogique pour pouvoir transmettre des idées, pour pouvoir aussi appuyer à travers des histoires, l'imaginaire, et aussi pour se documenter. Et donc, on a utilisé donc, pour le projet sur Rosa Parks et les luttes contre les discriminations, l'ouvrage donc, Rosa Parks, qui a été écrit par Lisbeth Kaiser et Martha, illustré par Martha Intello. Donc c'est une collection de petites et grandes par la maison d'édition Kiman, auquel on aime bien ces formats puisqu'on les a utilisés aussi lors de le projet que j'ai mentionné, Elle change le monde, auquel on a le parcours qui c'est de personnes militantes donc, qui ont contribué dans différents domaines. Et ici, on apprécie puisque aussi à la fin du livre, on va avoir donc des photos de la figure de la personne ainsi que une biographie un peu plus élaborée. On a aussi utilisé un autre ouvrage important aussi que je vais rapidement juste décrire qui s'appelle J'ai le droit de Reza Dalvan, donc des éditions Les Arènes, auquel on a un magnifique ouvrage sur les droits des enfants. Auquel on utilise et qui nous explique les différents droits donc auxquels on va retrouver dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et en dernier lieu, on a sur une publication 2025, donc publication plutôt pour ados et adultes, qui s'intitule « C'est pas juste, tout comprendre sur les inégalités », donc publiée par l'Observatoire des inégalités, auquel ici on essaye d'articuler vraiment qu'est-ce qu'on peut comprendre de qu'est-ce qu'une inégalité, qu'est-ce qu'on peut donc à travers notre société donc questionner aussi la méritocratie. On n'a pas tous les mêmes chances pour arriver, donc ça dépend, on peut avoir différents obstacles dans notre vie selon donc voilà notre milieu social. Et donc pour arriver à une inégalité, comment on définit déjà qu'est-ce qu'une inégalité?
Ben oui.
C'est le parfois dans le dictionnaire on va retrouver c'est l'opposition, l'opposé de qu'est-ce qui est égal, d'accord. Mais une inégalité c'est une différence, mais auquel la société va accorder aussi une hiérarchisation. C'est-à-dire, je peux, selon une catégorie, par exemple, de différence, on peut avoir le logement, on peut avoir un appartement auquel il y a un ascenseur, et on peut avoir un appartement sans ascenseur. Par contre, cette différence-là va créer une inégalité d'accès. On va ici parler plutôt d'une inégalité sur, bon, selon notre milieu, c'est notre situation, si on est porteur d'handicap, eh bien, il y a une différence d'habiter dans ce type d'appartement. Mmh. Par contre, avoir un chien ou un chat, deux personnes qui ont un chien ou un chat, il n'y a pas une différence qu'on va pouvoir établir. Bon, on est sur une préférence d'animal domestique. Mmh. Donc, on a cette explication déjà de qu'est-ce qu'une inégalité dans cet ouvrage. Et ensuite, on va retrouver à travers, donc sur des planches de double page, on va avoir ici différentes explications sur les inégalités liées au genre, aux orientations sexuelles, la couleur de peau, le logement, le handicap, l'éducation, les richesses, la justice et la représentation des médias. Ces inégalités peuvent renforcer des stéréotypes ou des différences ou comment on peut se projeter autrement. Et dans cette, c'est pour ça qu'on essaie d'aborder, élaborer aussi sur qu'est-ce que c'est, comment les discriminations sont perpétuées dans une société, mais de comprendre aussi qu'elles évoluent aussi, elles changent aussi selon la société dans laquelle on se retrouve. On est sur une dernière section dans l'ouvrage qui nous aide aussi à dire quel est notre pouvoir d'agir et comment on peut agir pour des sociétés qui sont plus égales, c'est-à-dire questionner ses privilèges, prendre conscience des actions possibles, en parlant aussi du recours aux tissus associatifs ou les réseaux auxquels, qui peuvent nous accompagner.
Et y compris Transistor, qui reçoit le Psychodes une fois par trimestre, on va dire. C'est la fin de ce LEM. Merci beaucoup, Arka. On pourra le réécouter sur le site internet. Et puis, on retrouvera une nouvelle fois le Psychodes. Ce sera le 1er juin. Merci. Au revoir.
Merci.